France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le vol des antiquités et le pétrole, c'était la principale manne financière de Daesh. Les pillages qu'ils ont effectués partout ont saturé les marchés mondiaux.
Aujourd'hui, ils veulent juste creuser, tout détruire. Tu viens et tu leur dis « ça ne se fait pas mon frère, c'est l'héritage du pays ». Ils te répondent « c'est juste des pierres ».
Je vois mal comment un objet de Syrie, par exemple, pourrait passer aujourd'hui en vente publique sans provenance. C'est totalement impossible.
Ce sont des tablettes de l'âge du bronze avec des inscriptions cunéiformes, des statuettes aux yeux incrustés de lapis-lazuli, des amphores multicolores, des tapis de mosaïque. Ils figurent sur la liste rouge d'urgence des biens culturels syriens en péril élaborée par l'ICOM, le Conseil international des musées. Cette liste recense les objets culturels les plus susceptibles d'être achetés et vendus illégalement et appelle à la plus grande vigilance, musées, maisons de vente, marchands d'art et collectionneurs qui seraient tentés d'en faire l'acquisition. Car le trafic d'antiquités syriennes est un commerce lucratif qui profite de la fragilité des institutions, du vide juridique et sécuritaire. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a explosé pendant la guerre. C'était une source de financement pour les factions belligérantes et Daesh l'a pratiqué à grande échelle. Près d'un an après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie semble retrouver un peu de stabilité, mais les conditions de vie restent difficiles et les fouilles clandestines souvent perçues comme un moyen de subsistance comme un autre. L'hémorragie de trésors du patrimoine syrien se poursuit. Avant le soulèvement contre la dictature en 2011, des millions de touristes étrangers venaient chaque année admirer les nombreux sites archéologiques syriens, dont 6 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, l'héritage culturel du pays et de l'humanité est en péril. Comment mettre un terme au pillage? Comment empêcher la vente illégale de ces objets, qui réapparaissent parfois à l'autre bout du monde? Et les pièces retrouvées pourront-elles être restituées à la Syrie? Syrie, sur la trace des passeurs d'antiquités, c'est un reportage signé Arthur Saradin et Noé Pignède. Bonjour Noé.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui vous a mis sur la piste des antiquités syriennes?
Alors, c'est un émerveillement. On arrive en février dernier avec Arthur Saradin sur le site de Palmyre pour la première fois. Moi, ça fait presque une dizaine d'années que je couvre la Syrie, mais c'était un site qui était complètement inaccessible puisqu'il était tenu d'abord par Daesh, puis par le régime de Bachar al-Assad qui ne permettait pas aux journalistes d'entrer sur son territoire. Et donc j'arrive à Palmyre en février parce que c'est sur la route d'un autre reportage et on tombe sur ce lieu qui est magnifique, qui est magique. J'ai vu d'autres sites au Moyen-Orient comme le site de Baalbek ou même à Rome, en Grèce. Et là, à Palmyre, je suis frappé en fait par la beauté du lieu et je suis frappé aussi par les destructions qui ont frappé le site, les destructions de Daesh qui a dynamité certains temples, les destructions des statues qui ont été défigurées par les djihadistes, et puis les trous tout autour du site antique, parce que les gens y fouillent et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait les gens continuent de fouiller et continuent de rechercher des pièces pour les vendre ensuite sur internet, et donc on commence à s'y intéresser un peu avec Arthur Saradin et on tombe sur des pages Facebook et des sites de vente d'antiquités, des ventes d'antiquités qui sont clandestines, et on se dit mais comment est-ce que c'est possible aujourd'hui encore, après toutes les régulations européennes, que des antiquités qu'on appelle des antiquités du sang soient encore sur les marchés mondiaux? Et donc c'est la question qu'on s'est posée.
On va se pencher là-dessus. Suna Altnoder est notre invitée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Vous êtes chef de l'unité Trafic illicite, retour et restitution. Autant de thèmes abordés dans le reportage d'Arthur Saradin et Noé Pignède que nous allons écouter tout de suite. Il commence à 60 km au sud d'Alep.
On est sur le site d'Ebla, au nord de la Syrie. Et on a du mal à imaginer que ce qu'il y a devant nous a un jour été un lieu touristique. On marche au milieu des tas de pierres effondrées, le lieu a été bombardé. Il y a des immenses trous, sûrement creusés au bulldozer. Le soleil se couche, il y a beaucoup de vent. Et un peu plus loin, on voit trois jeunes garçons qui se baladent. Ils rentrent dans les souterrains de ces vestiges du 3e siècle avant notre ère.
Ici, c'était un lieu archéologique. Il y avait comme des maisons troglodytes sculptées dans la pierre. L'armée libre descendait ici pour se reposer. Il y avait une mosquée où ils pouvaient prier, des cuisines, tout ce qu'il fallait en dessous, sans jamais avoir à remonter à la surface. Comme ça, peu importe si le régime bombardait, ils ne pouvaient pas les atteindre. Maintenant, des gens viennent avec des appareils en espérant trouver quelque chose sous les pierres.
Mais en réalité, il y a de moins en moins de personnes qui font des fouilles dans le coin. Honnêtement, c'est à cause des mines. Il y en a une qui a explosé l'autre fois et qui a tué un berger qui faisait paître ses moutons. Elle a explosé sur eux.
Lui, il cherche de l'or. Il bosse avec une machine. C'est son oncle qui fait des fouilles avec lui.
Une fois, nous avons trouvé une pièce de monnaie et une petite bourse au pied de la colline. Nous sommes revenus, mais nous n'avons rien trouvé en haut. S'il y a encore des trésors ensevelis, je ne sais pas. On cherche avec un appareil jaune qui s'appelle le Garrett. Celui-ci est d'occasion, il coûte 300 euros. Tout le monde en a au village.
Bienvenue à Alep. Ahlan wa sahlan.
La maison orientale, dès la haute antiquité, avait toujours une fontaine au milieu. Vous voyez l'arbre ici? Vous voyez le deuxième arbre, le vigne, il y a un citronnier. Nous avons 6 chambres ici et 4 chambres à l'étage. Et voilà, comme vous voyez, la collection des choses traditionnelles, des collections de tapis, un guitare, un oud aussi. Il y a des tambourins.
Oui, c'est un hôtel, mais en fait, c'est un petit musée.
Exactement, exactement. C'est mon amour, c'est ma collection, disons, que j'adore. La plupart de mes visiteurs disaient que c'est la caverne d'Ali Baba ou bien comme une maison de 1001 nuits. Et je suis fier, hein, oui. C'est mon âme est ici, mon âme.
Et cette maison, elle a été détruite pendant la guerre.
Ils ont touché la partie supérieure. Et des tirs de mortier, des grenades. Et en bas, ici, le bois, les fenêtres, les portes, tout était touché.
Je m'appelle Abdelhaï Kadour. J'étais prof de français pendant plusieurs années. Et actuellement, je suis le propriétaire de cet hôtel qui s'appelle Dar Halabia et une agence de voyage Halabia Tour.
Donc depuis 1993, vous organisez des tours de la Syrie.
Exactement, oui. Le tourisme en Syrie était et il est toujours tourisme culturel. La Syrie est riche par son histoire. Les plus importants, c'est le 3e, 2e, 1er millénaire et après l'époque gréco-romaine, byzantine et arabe. Alors nous avons des sites très importants, comme Palmyre, comme Bousra, comme Damas, comme Krak des Chevaliers, comme Apamé. Les musées du monde sont riches par les trouvailles qui étaient tirées de ces sites. C'est possible d'y aller actuellement. Nous allons une ou deux fois par semaine, soit avec des Syriens, soit avec le très peu d'étrangers qui viennent. Nous faisons ces tours.
Après 14 ans de guerre, qu'est-ce que sont devenus ces sites ?
Malheureusement, il y a beaucoup de dommages, il y a beaucoup de fouilles clandestines. Sans faire attention à la valeur historique de ces sites, la pauvreté et la guerre, etc., alors les gens n'ont rien à faire avec une pelle et une pioche. Une jarre vide, ils la cassent directement. Ils cherchent dans leur tête une seule idée, une jarre pleine d'or.
On se trouve maintenant dans le souk d'Alep. C'est le plus grand marché couvert du monde. Il a été en partie rasé par les bombes d'Assad et de la Russie. Mais ici, on se trouve dans une ruelle épargnée par la guerre et on a rendez-vous avec un vendeur de détecteurs de métaux. Ce business, il est en plein boom en Syrie. Les gens les achètent dans l'espoir de trouver des trésors à revendre dans les sites archéologiques. C'est bien sûr complètement illégal, mais certains en vendent sous le manteau.
Bonjour, vous allez bien? C'est vous que j'ai eu au téléphone?
Oui, venez voir, je vous montre comment ça marche. Quand il tombe sur un truc de valeur, en général, il fait plein de sons.
Et ça coûte combien ?
450 euros. Je les fais venir de Turquie jusqu'ici. C'est interdit, donc on doit les cacher dans d'autres marchandises. On fait ce business depuis la libération. Regardez cette pièce de monnaie. Je l'ai trouvée en creusant. Je l'ai détectée grâce à cette super machine. Cette pièce, elle était enfouie dans une maison traditionnelle. Elle a plus de 1000 ans.
Si je me balade dans la rue avec, que je le ramène à la maison, il n'y a pas de problème.
Si on te demande, tu dis que c'est un jeu pour les enfants.
Ok.
Ne leur dis surtout pas que c'est pour des ruines.
Au revoir, bon courage.
Direction Palmyre maintenant, au cœur du désert syrien. Palmyre, c'était la vitrine du régime Assad et c'est sans aucun doute le site le plus symbolique du patrimoine syrien, le plus riche en antiquités aussi. Et c'est donc un haut lieu du marché noir, un trafic d'abord orchestré par les fidèles du dictateur, puis qui a continué sous Daesh quand le groupe s'empare de la région en 2015. Un business qui est ensuite tombé à nouveau dans les mains du régime, des Russes et de la milice Wagner quand ils reprennent le contrôle de la zone 2 ans plus tard. Depuis la chute de Bachar al-Assad il y a 1 an, les ruines et le musée de Palmyre sont au cœur de différents projets de restauration et la tâche est titanesque. Le musée est encore fermé mais il l'ouvre rien que pour nous.
Salam alaykoum. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Normalement, je parle français, mais j'ai oublié depuis beaucoup de temps.
Vous êtes de Palmyre ?
Oui.
C'est quoi votre prénom ?
Moi, je m'appelle Mohamed. Mais je parle français et un bout d'italien, un bout d'espagnol, parce que je travaille avec tourisme.
À cette période de l'année, c'était la haute saison touristique. Les archéologues français avaient l'habitude de venir travailler ici à Palmyre. C'était il y a longtemps, bien avant la révolution.
Le plafond du musée, il est complètement éventré. C'est l'aviation de Bachar al-Assad qui a bombardé pour essayer d'en chasser les djihadistes.
Beaucoup de malheurs sont arrivés au musée. Les destructions ont été causées par le régime Assad et par Daesh.
Daesh a méticuleusement détruit chaque visage de chaque statue du musée.
Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils sont fous. Pardon, mais ce sont des merdes. Ce n'était que de la pierre, rien que des pierres. Ils disaient agir au nom de l'islam, mais ils sont bien loin de l'islam.
À 230 km de Damas, contrastant avec l'animation urbaine, Palmyre. Palmyre, l'ancienne Tadmor, environnée de steppes désertiques. Une oasis fertile où, à l'abri de palmiers centenaires, les cultures maraîchères et les plantations d'oliviers font vivre la population. De la riche cité antique qui se dressa au temps de sa splendeur avec sa reine Zénobie contre l'Empire romain, il ne reste que des ruines orgueilleuses. Pour l'amoureux d'archéologie et d'histoire, c'est le témoignage d'un passé illustre, la permanence de l'occupation humaine et des grandes civilisations du bassin méditerranéen.
On est monté dans la voiture et on roule maintenant vers l'immense site antique de Palmyre.
Palmyre était une oasis, pleine d'oliviers, de grenadiers et de palmiers. C'était très vert ici. Maintenant, tout est asséché. Et ça aussi, c'est l'œuvre du régime.
Tout autour, il y a des morceaux de chapiteaux, des colonnes qui sont brisées. Ce temple hellénistique qui datait de 32 après Jésus-Christ, il a été dynamité par Daesh. Il ne reste plus qu'une arche.
Ici, c'est le temple de Bel, détruit en 2015. Après la libération, on y a découvert un poste de l'armée avec tout un arsenal. Les soldats d'Assad et les milices iraniennes avaient caché des armes et des mines jusqu'à l'intérieur des temples, sur tout le site.
Le site, il a été détruit par Daesh, mais avant ça, déjà, il était pillé par le régime. Il y a des milliers de pièces qui se sont retrouvées sur le marché de l'art international, qui étaient vendues par la famille Assad.
Bien sûr, le régime Assad était une immense mafia. Des voleurs. Ils ont pillé toute la Syrie, pas seulement les ruines. Assad a transformé la Syrie en vache à lait pour lui et sa famille. Parfois, j'essaye de me rappeler comment était Palmyre avant. Ça me rend triste. Bien sûr, on ne pourra pas tout restaurer, mais j'espère que des archéologues français ou d'autres gouvernements étrangers viendront nous aider.
J'espère.
Pendant 15 ans, le monde nous a ignorés. Je ne pensais pas que vous resteriez silencieux comme ça. Maintenant, le régime est tombé, donc vous devez venir nous aider. Et si vous ne le faites pas pour les habitants, faites-le au moins pour les ruines, pour cette ville.
En allant à Palmyre, on avait dans l'idée de rencontrer un des membres de la famille de Khaled Assaad. Khaled Assaad, c'était le conservateur du musée de Palmyre. Il a été torturé, puis exécuté par Daesh, parce que les djihadistes pensaient qu'il savait où se trouvaient des trésors cachés de la cité antique. On est parvenu à entrer en contact avec un de ses fils, Mohammed, mais il n'a pas voulu nous accompagner à Palmyre. Trop de souvenirs douloureux, trop dangereux aussi, parce que dans le désert qu'on traverse en ce moment, il y a encore des cellules de Daesh. Il nous a donc donné rendez-vous chez lui, à Homs, dans la maison familiale.
Assalamu alaikum, bonjour.
Bonjour.
Assalamu alaikum.
Bonjour. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Regardez cette photo, elle date de 2003. À cette époque, on avait reçu à Palmyre le président Mitterrand, le premier ministre de France Raymond Barre, Jimmy Carter, le président des États-Unis. Je me souviens que Jimmy Carter avait dit, sous l'arc de triomphe antique, « Je suis certain d'une chose maintenant que j'ai visité Palmyre. Vous avez une culture en Orient. Vous êtes les héritiers d'une civilisation. » Quand Daesh est arrivé à Palmyre, ils ont exécuté des habitants dans les rues. Et dans la foulée, ils se sont mis à arrêter des gens sous de faux prétextes. Puis ils ont commencé à détruire les antiquités en disant que c'était des idoles.
Les destructions d'antiquités de Daesh, en fait, c'était pour les vidéos de propagande seulement, mais la majorité des pièces, les terroristes, ils les vendaient pour se financer et ils ont gagné des millions grâce à ça.
Le vol des antiquités et le pétrole, c'était la principale manne financière de Daesh. Les pillages qu'ils ont effectués partout ont saturé les marchés mondiaux. Ça débordait d'antiquités volées de Syrie, d'Irak et de Palmyre en particulier. Ils ont fait semblant de détruire certaines antiquités, mais pour une statue qu'ils défiguraient, ils en volaient 100 autres.
Et votre père, il a décidé de rester.
En arrivant à Palmyre, Daesh a interrogé mon père. Ils lui ont demandé s'il avait caché des antiquités. Il répétait que c'était des idoles qu'ils devaient les détruire. Ils ont dit, « Toi, tu sais où Zenobie a caché ses trésors, ceux qui sont estimés à 2 tonnes d'or. Tu dois nous dire où ils sont. » Tout cela n'était qu'une légende, bien sûr. Mon père avait en effet toujours rêvé de découvrir un jour un vestige de la reine Zenobie pour entrer dans l'histoire. Il n'y avait rien de concret là-dedans. Mais les gens de Daesh ont insisté. Ils ont torturé mon frère parce que tout son savoir venait de notre père. Il est devenu paralysé et il a réussi à prendre la fuite vers Damas puis à Lyon. Mon père, quant à lui, a été exécuté le 8 août 2015. Qu'y a-t-il de plus grand que ce sacrifice sur l'autel de la civilisation ? Je pense qu'il repose l'âme en paix parce qu'il a été égorgé pour Palmyre, et ce fut son choix. Malheureusement, il n'a pas de sépulture jusqu'à présent, parce que les hommes de Daesh enlevaient les corps après les exécutions et nous interdisaient de les enterrer. Les restes de mon père ont disparu.
Le trésor de Zenobia, il n'existait pas, mais il y a quand même un vrai trésor qui a été protégé par votre père.
Oui, en réalité, nous avons transféré beaucoup de pièces au musée national de Damas. Et ce, jusqu'au dernier moment, le 19 mai 2015, la veille de l'entrée de Daesh à Palmyre. Les djihadistes sont entrés au moment où nous fuyons. Environ 1000 pièces des statues se trouvaient encore là-bas. Mon père, il a préféré donner sa vie pour préserver le patrimoine culturel de l'humanité.
Depuis la libération, les ventes d'art islamique ou d'archéologie inondent les groupes Facebook et WhatsApp syriens. Les trafiquants postent des messages anonymes avec des photos de statuettes, de mosaïques ou même de Torah anciennes. C'est évidemment assez difficile de discerner les faux des pièces authentiques. On constate qu'un grand nombre d'objets viennent du nord du pays. C'est un des épicentres du trafic à la frontière turque.
مرحبا استاذ غيث.
هلا حبيبنا هلا.
يعطيك العافيه شلونك؟
يعافي قلبك حبيبي.
طمني عنك.
يا اكابر.
على راسي الله يحفظك يا رب. ممكن تحكي لي شويه معلومات.
Vous me donner des détails, des informations sur les statues que vous avez postées sur Facebook, leur origine, combien vous les vendez.
كم انت بدك سعر القطعه مثلا؟
اصليه معلم.
Ce sont les originaux. Je vais vous dire d'où elles viennent. Elles étaient à mon père. Nous les avons cachées à la maison depuis 11 ans. Je ne sais pas exactement comment il les a eues. Je les ai fait évaluer par un expert à Damas. J'ai dû faire ça discrètement. Elles datent de la civilisation sumérienne. Elles ont 3500 ans. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les Sumériens. L'expert m'a demandé où j'étais pour les voir en vrai. J'ai entendu parler de beaucoup d'histoires sur les pillages dans les musées. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un voleur, donc je suis resté flou.
Et donc, c'est quoi votre prix ?
Il y a déjà une cinquantaine de personnes qui m'ont contacté, mais j'ai pas confiance. Donc je n'ai pas donné suite. J'ai dit que j'étais occupé. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait passer par son réseau avec trois intermédiaires. Il propose 8000 dollars par statue.
Vous pouvez m'envoyer des photos ?
Oui, il n'y a pas de problème. Je peux en envoyer pour que tu regardes. Je ne veux juste pas que tu viennes les voir à la maison. Parce que je veux les vendre, mais c'est illégal au niveau international. Donc ce n'est pas juste une question d'argent, mais de confiance.
On vient maintenant d'arriver à Idlib. On est sur la place centrale. Il y a pas mal de circulation autour de nous. Et on est devant un grand bâtiment blanc brutaliste, c'est le plus moderne de la place sûrement. Il est inscrit Musée d'Idlib, Idlib Antiquities Department, département des antiquités d'Idlib. C'est un musée qui a été détruit par la guerre, par les bombardements. Il est en ce moment en pleine rénovation, il y a tout autour des ouvriers qui travaillent. Et on va rentrer, il y aura un peu moins de bruit à l'intérieur. Dans le musée d'Idlib, avant la guerre, il y avait une large partie des tablettes d'Ebla, 17 000 tablettes en langue sumérienne qui dataient du 4e et du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce trésor, il a été perdu largement, victime du trafic d'antiquités. Il y a même une des tablettes qui a été récemment retrouvée à Stuttgart, en Allemagne. Et ici se pose donc la question de comment récupérer les joyaux disparus pendant la guerre syrienne.
Hassan Ismail, je suis directeur des antiquités d'Idlib. Comme vous le voyez, le musée a été la cible de trois raids aériens, un raid du régime et deux raids de l'occupation russe.
Il reste encore beaucoup de travail avant le retour des visiteurs.
Nous menons un projet de restauration depuis le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie. Maintenant, nous en sommes à la deuxième phase, celle qui concerne l'intérieur du musée. Nous devons remplacer le plafond suspendu et bien sûr, le plus important, les vitrines d'exposition. Le but, c'est évidemment de pouvoir rouvrir le musée et qu'il soit de nouveau accessible aux touristes et aux visiteurs étrangers.
Il y a combien de pièces qui ont disparu ici ?
Avant, nous pensions que certaines pièces disparues avaient été transférées dans d'autres musées par le régime. Mais nous avons déjà pu confirmer, après la libération, qu'aucune pièce d'Idlib n'avait été déplacée ailleurs dans le pays. On est donc arrivé à la conclusion que les pièces ont dû sortir par la frontière, via la Turquie ou le Liban. Nous ne savons pas exactement. À l'origine, ce musée a été construit pour le site d'Ebla, en raison de la découverte d'un grand nombre de tablettes d'argile cunéiforme. Idlib contient le tiers des antiquités de la Syrie. La région est riche de sites archéologiques. Selon notre dernier inventaire, il nous reste environ 3000 pièces ici. Et nous allons faire comme on peut pour retrouver celles qui manquent. Faire des fiches avec leurs photos et un numéro muséal, les envoyer à Interpol pour qu'ils nous aident à les récupérer. Il est donc possible que cela prenne du temps. Mais elles reviendront.
On roule maintenant tout à l'ouest de la Syrie, à une quarantaine de kilomètres de la côte méditerranéenne.
Et on suit la voiture d'Abed, qui est un archéologue, et qui nous emmène au site d'Apamé. C'est une citadelle qui est perchée en haut de la vallée du Rab. Et à l'intérieur, il y a encore des habitants. C'est assez courant en Syrie, en fait, que des gens vivent sur les ruines des sites archéologiques.
Il y a eu un bombardement très violent sur la région et les forces du régime l'ont envahi. Alors les habitants ont été contraints de fuir en 2019 jusqu'en 2024. Après la libération, immédiatement, ils sont revenus dans leur maison.
Il y a une habitante qui nous invite à monter chez elle. Bonjour. Assalamu alaikum. Les gens, ils vivent dans des ruines. Enfin, la maison, elle est complètement détruite.
Ça fait 5 jours que nous sommes rentrés ici. Nous sommes venus des camps déplacés. Mais ici, c'est fou comme tout est cher. Cette maison où on est appartient à nos voisins. Nous sommes venus nous y installer en attendant de réparer la nôtre.
Quand vous êtes revenus, vous avez été choqués?
En voyant ce qu'est devenu la citadelle, il ne nous est venu que de la peine et des larmes. Je suis montée dans notre maison par l'escalier. Je repense à mes enfants quand ils étaient petits, au moment où nous avons dû fuir vers les camps, et à tous les miens qui sont tombés en martyrs. Toutes les portes et les fenêtres ont été volées. Avant, la vie ici était magnifique. Oui, vraiment, les voisins étaient gentils, c'était très vivant.
Tous les bâtiments étaient habités.
Tout était habité. Et maintenant, regarde, tous les murs sont fissurés. Mais où voulez-vous qu'on aille? Les camps sont complètement vides. Et au moins, ici, on est chez nous, même si on vit dans les courants d'air. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous voulez un café? On ne peut compter que sur nous-mêmes pour reconstruire.
Donc là, on arrive tout en haut de la citadelle d'Apamé. On a une vue dégagée sur toute la province d'Ama. C'est une immense plaine et au bout, il y a les montagnes de l'Atakié qui découpent le ciel.
À l'origine, cet endroit était une forteresse dont les premières pierres remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Mais son véritable fondateur est Séleucos Nicator. Séleucos Ier était l'un des commandants d'Alexandre le Grand, en l'an 330 avant notre ère. Puis vint la période romaine. Les Romains s'en emparèrent après avoir vaincu les croisés, et elle resta entre leurs mains jusqu'à la conquête islamique. À l'époque ottomane, cette région fut négligée, mais elle resta habitée.
On est descendu de la citadelle, on est maintenant dans les vestiges de ce qui était la cité antique assyrienne d'Apamé. Il y a 2 rangées de colonnes sur plusieurs centaines de mètres et tout autour, des centaines de trous. Les gens, ils ont creusé tout autour du site archéologique. Il faut dire qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour protéger l'endroit qui est complètement laissé à l'abandon.
Depuis la libération, le premier défi des autorités, c'est la question sécuritaire. Donc ces zones archéologiques, personne ne s'en préoccupe vraiment. Surtout que, comme vous le voyez, c'est une zone isolée. Il n'y a personne. Donc c'est une aubaine pour les pilleurs d'antiquités qui viennent creuser. Les bâtiments que vous voyez là, avant, ils étaient intacts. Regardez comment tout est détruit maintenant. C'est une honte. Une civilisation entière est effacée, pour quelques pièces.
Là-bas, on voit des hommes qui sont en train de creuser au loin, non?
Le gars en bleu, là? Je ne sais pas. Je vous déconseille de vous en approcher, en tout cas. Il pourrait vous faire du mal. Il vaut mieux rester là, c'est dangereux. Peut-être qu'il est armé. Tu ne sais pas, faut faire attention.
Vous aussi, c'est pas très commun, d'ailleurs, pour un archéologue, vous avez une arme à la ceinture. C'est dangereux, aujourd'hui, les sites archéologiques en Syrie?
C'est juste au cas où. C'est mon arme personnelle. Ce spectacle, vraiment, ça me serre le cœur. De voir la civilisation de ton pays disparaître sous tes yeux, et toi, tu ne peux rien y faire. Il y a un devoir de sensibilisation, pour que les gens prennent conscience du problème. Aujourd'hui, ils veulent juste creuser, tout détruire. Tu viens et tu leur dis, ça ne se fait pas mon frère, c'est l'héritage du pays. Ils te répondent, c'est juste des pierres. Mais regarde la splendeur de la construction, regarde sa conception, regarde les décorations. En 3300 avant Jésus-Christ, ils avaient réussi à faire un réseau d'eau pour les maisons. Et toi, aujourd'hui, en 2025, tu viens détruire une civilisation pour de minables sommes d'argent. Quelle honte!
Est-ce que finalement le problème, c'est pas surtout les collectionneurs occidentaux qui continuent d'acheter des pièces qui viennent de Syrie, malgré le fait que la plupart sont issus de pillages?
Bien sûr, les pilleurs d'antiquités ne datent pas d'hier. Non. Ça existe depuis aussi longtemps que le commerce existe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais bien sûr, s'il n'y avait pas de trafic mondial, si les artefacts n'arrivaient pas en Europe et que ça ne se vendait pas sur le marché noir, il n'y aurait pas autant de fouilles clandestines et les pièces ne partiraient pas d'ici.
Monsieur, bienvenue à Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris, aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est 19h29 en heure locale.
De Genève à Londres, de Paris à New York, l'archéologie syrienne a inondé le marché de l'art ces dernières années. Alors, pour remonter la trace de ce commerce illicite international, direction maintenant la France, où l'on retrouve Vincent Michel. Il est archéologue, grand défenseur du patrimoine oriental et spécialiste de la lutte contre le trafic des biens culturels.
Comme professeur, je lutte contre l'ignorance. Je ne sais pas si les auditeurs peuvent concevoir ce que c'est qu'un trou de pilleur. En fait, c'est entre 2 et 6 mètres de diamètre, entre 2 et 4 mètres de profondeur, dont vous multipliez par 100, par 1000, par 4000. Lutter contre le trafic des biens culturels, c'est en fait lutter contre ceux qui m'empêchent de raconter une histoire. Un objet est une mine d'informations. Et quand l'objet est décontextualisé, notamment par les pilleurs, mais aussi par les détectoristes, qu'ils soient en Syrie ou en France, eh bien, cette histoire, elle ne m'est plus accessible. Et d'une façon définitive. Moi, quand je reviens le lendemain matin et que je vois qu'à côté du trou que j'ai fouillé scientifiquement, il y a un autre trou, en fait, c'est un traumatisme parce que je ne saurais plus jamais ce qui a été découvert là, en fait. Et puis après, le deuxième traumatisme, c'est où est l'objet?
Bonjour.
Bonjour.
Je suis journaliste à France Culture, j'ai rendez-vous avec l'Office central...
Central de quoi, c'est ?
L'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels.
L'OCVC, ça s'appelle. Voilà.
Chaque année à son lot de saisies. On peut être sur plusieurs milliers par an.
Estelle Stam, commandante de police.
On peut avoir des faux, on peut avoir des tableaux, des sculptures, des bronzes. Ça peut être un sarcophage ou une belle stèle qui vaut plusieurs millions d'euros. Parce qu'on est sur des biens archéologiques, on est sur des biens culturels, on est sur des trésors nationaux. Un trésor national... En termes de valeur vénale, effectivement, ça peut monter très très vite, mais en termes de valeur historique ou patrimoniale, ça n'a pas de prix. Le 18 février 2016, au niveau de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les douanes font un contrôle d'un colis qui est en provenance de Beyrouth et à destination de Bangkok, qui contient en fait officiellement deux pièces de décoration de jardin. Quand ils ouvrent le colis, ils trouvent que les pièces décoratives sont relativement belles. Ils font appel à un conservateur du Louvre qui leur indique que ce sont plutôt des plaques de chancel authentiques et qui potentiellement peuvent provenir de la vallée de l'Euphrate, donc potentiellement la Syrie. Donc les pièces sont saisies, elles sont évaluées à entre 200 et 300 000 euros. L'enquête nous a permis d'avoir quand même une jolie chaîne du trafic. Avec la Thaïlande, on a fait des vérifications sur la société qui était destinataire du colis, qui elle en fait était une société qui, à leur tête, avait des individus pakistanais et afghans qui avait aussi potentiellement des liens avec des mouvements, on va dire, assez radicaux au niveau de l'islam.
Donc c'est des opérations de blanchiment avec pas mal d'étapes. Pourquoi la France ?
Là, c'est simplement que l'avion, il avait besoin de s'arrêter quelque part et il s'est arrêté à Paris-Charles de Gaulle. Et le flair des douaniers a fait qu'on a pu récupérer ces deux pièces-là. Sinon, de manière générale, pourquoi la France ? C'est parce qu'on est quand même une forte place du marché. On représente 7% du marché de l'art mondial. On est la quatrième place du marché mondial.
Appel en cours. Bonjour.
Oui, bonjour madame, Noé Pignat de France Culture. J'ai rendez-vous avec Lania Issam du département d'archéologie.
Oui, je vous ouvre, nous sommes au premier.
Paris, d'accord. Quartier oui. Des Champs-Élysées. On est devant l'hôtel particulier d'Arcurial. C'est l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères françaises. Et ici, il y a deux ventes d'archéologie par an. L'institution, elle défend un modèle où toutes les pièces sont sourcées, avec une provenance vérifiée pour être certain qu'elles ne sont pas issues de pillage. Et contrairement à beaucoup d'acteurs du marché de l'art, eh bien son experte en antiquité est plutôt favorable à la nouvelle législation européenne qui, depuis le mois de juin, encadre les importations et tente d'assainir encore un peu plus ce marché qui reste extrêmement sensible.
Bonjour Noé.
Bonjour.
Pardon, Lania, enchantée. Vous allez bien ?
Ça va, vous ?
Ouais.
Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie. Il faut, pour qu'un bien culturel entre dans l'espace européen, que l'on ait les preuves de sa sortie licite de son territoire d'origine avant 1970. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Évidemment, ça date de juin, donc tout le monde tâtonne un peu. Voilà. Mais le but, en tout cas, c'est qu'il n'y ait pas de brèche au niveau des frontières européennes. On faisait déjà attention avant à la provenance de pièces de certains pays, c'est-à-dire qu'il y a des plaques tournantes internationales. C'est par exemple connu qu'Israël donne des passeports aux œuvres d'art de façon plus facile que d'autres pays. Donc il y avait des objets qui pouvaient transiter de là.
Concrètement, quand vous recevez une pièce, je vais prendre l'exemple de la Syrie, quelles sont les vérifications à faire ?
Alors, il y a plein de vérifications à faire. Déjà, on commence par l'authenticité. L'objet en lui-même, déjà, il parle. Une pièce qui sort de terre, ça se voit. Une pièce qui a passé du temps dans des collections, ça se voit. Ça a une patine, ça a quelque chose. Évidemment, il y a le collectionneur, la personne qui vous présente l'objet. Honnêtement, déjà, s'il n'est pas européen, ça passe pas. On jauge aussi la personne. Est-ce qu'elle est connue parmi le monde des collectionneurs ? Est-ce qu'elle a d'autres objets ? D'où provient l'œuvre ? Vous l'avez eu en héritage ? Vous l'avez acheté ? Auprès de qui ? Quand ? Les preuves matérielles, elles sont mais de toute nature que ce soit. Alors, on a la classico-classique facture d'achat datée. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, on va avoir toutes sortes d'autres documents. On peut avoir des actes de succession, on peut avoir des inventaires pour assurance, on peut avoir des photos anciennes, datées ou datables. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de quelque chose de cadré. C'est vraiment au cas par cas pour chaque objet.
Vous avez déjà été confronté, vous, à des objets où vous dites « Non, là, on a un doute ». Sérieux sur la provenance, la légalité de sa présence sur le territoire européen, et donc on prend pas.
Ah, bien sûr. C'est la majorité des objets même, enfin, qu'on refuse. Il y a évidemment ceux qu'on refuse parce qu'on a des gros doutes sur leur licéité, ça c'est sûr. Ça, ceux-là, on les refuse de facto. Et il y a ceux qu'en fait, on appelle des objets orphelins. On sent que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème, mais on peut pas le prouver. Et ça, malheureusement, le législateur n'a pas encore acté là-dessus, et c'est très dommage parce que souvent, en plus, il s'agit de petits objets qui n'ont pas de grande valeur. Des petites amulettes en faïence acquises par l'arrière-grand-père au Caire dans les années 20, il n'y a aucune chance que la famille ait des documents là-dessus. Aucune chance. Mais pourtant, ces objets, ils sont tout à fait licites et tout va bien. Malheureusement, nous, on les refuse parce qu'on ne peut pas justifier de leur provenance. Après, il ne s'agit pas non plus de refuser tous les objets orphelins, parce que notre travail aussi, c'est d'avoir un objet qui nous arrive orphelin, et parfois on arrive à retracer l'histoire.
Alors on débute donc avec les premiers lots de monnaie, 10 pièces de 20 francs or à 5500. À 5500 nous sommes. 5600, 700, à 5700 c'est sur ordre à la tribune. 50, à 5800 avec vous. 5800 c'est vu. J'adjuge à 5800.
C'est là.
Drou est une plateforme qui réunit au service des maisons de vente tous les services possibles les plus efficaces, c'est-à-dire un hôtel des ventes, le plus grand au monde.
Alexandre Gicchiello, commissaire-priseur.
Quand j'ai commencé à travailler il y a bien longtemps, c'était en 1994, notre obsession c'était le faux. Les diableries des faussaires, qui existent encore. Hein. À cette époque-là, la provenance n'était pas un sujet, elle n'était que une plus-value. On est rentré très brutalement dans la réalité concrète des faits, la réalité brutale, au moment du printemps arabe, où on commence à parler effectivement de trafic d'objets de ces régions qu'on a appelé les antiquités du sang. Je vois mal comment un objet de Syrie, par exemple, pourrait passer aujourd'hui en vente publique sans provenance. C'est totalement impossible. Même si on est dans une succession avec des possesseurs évidemment de bonne foi, on ne passe pas la pièce, parce qu'on n'est pas masochiste. On sait qu'on aura des problèmes, on sait qu'il va y avoir une enquête, on sait qu'on va être mis sur le grill.
Et justement, je voulais y venir, en 2022, vous avez été placé en garde à vue pour un objet litigieux, présumé issu de pillage, et votre défense, c'est que vous vous êtes fait avoir.
Oui, moi j'ai eu la malchance de me retrouver dans cette situation. C'était une pièce.
Égyptienne,
oui, qui avait apparemment la même provenance que la fameuse stèle d'Abu Dhabi du Louvre, donc évidemment c'était quelque chose de très médiatique.
Oui, la stèle d'Abu Dhabi du Louvre, ouais. Qui elle-même était issue de pillage.
Là, on parle d'une vente de 2014. En 2014, on avait une façon de travailler qui est différente de celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai 4000 vendeurs dans mon répertoire. Le vendeur est apporté par l'expert, qui était le meilleur expert de loin. Il travaillait pour 40 ou 50 maisons de vente. Vous voyez, c'était quelqu'un de très, très reconnu. Moi, j'avais des relations très amicales avec lui. J'avais toute confiance. Et puis, quand vous avez une provenance comme ça sur l'affiche, bah, une seconde, je me suis posé le moindre problème. Et puis, un jour, on vous dit, c'est issu d'un trafic illicite, etc. Ça reste à prouver. Hein.
Quand l'Arabie Saoudite dit « je veux créer 50 musées en 10 ans », c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Vincent Michel, archéologue.
Mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour les trafiquants. Et c'est vrai que voilà, ça devient un peu des plaques tournantes. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire prendre conscience à ces pays pour leur dire voilà, « vous êtes vulnérables ». Vous êtes vulnérable parce que c'est aberrant, en fait. Hein. La créativité des trafiquants pour blanchir un objet. Parfois, il est plus facile, justement, de blanchir des stupes avec des biens culturels que de se promener avec des liasses de billets. Et la Syrie est quand même un très bon exemple. Je trouve qu'il y a une sorte d'accélération.
Il y a beaucoup d'œuvres syriennes qui dorment en ce moment dans les musées occidentaux. Est-ce qu'avec la chute de Bachar al-Assad, on va pouvoir les restituer maintenant?
Les restitutions ne peuvent se faire que en cas de stabilité, en fait, hein, du pays. C'est normal qu'il y ait une certaine prudence, en fait, pour l'instant. Hein. Je pense que tous les pays ont dans leur coffre beaucoup d'objets qu'ils ont saisis et qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que ces objets repartent en Syrie. Mais bon, c'est pareil pour l'Afghanistan, ce fut pareil aussi pendant très longtemps pour l'Irak. Et on voit maintenant qu'il y a beaucoup d'objets qui repartent en Irak. Enfin, en tout cas, c'est la finalité.
Moi, personnellement, je suis pour l'ouverture des musées à tous et que ils ne contiennent pas que les témoins du patrimoine du pays qui abrite le musée. Ce serait d'une tristesse infinie.
Lamia Issam, spécialiste au département archéologie d'Arcurial.
Moi, je suis pour les musées où on peut avoir des objets égyptiens et des objets sud-américains et de la peinture de William Turner. À vouloir peut-être trop restituer de choses, on peut arriver à ça. Alors attention, il y a des choses qui sont à restituer. Les bronzes du Bénin, les têtes maoris, là on est sur des cas extrêmement particuliers. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin et dire bah, on va vider le Louvre. Ça n'aurait aucun sens. رنوا لي على البكاس واخبروه باني اتي اسف على التاخير بس كنت عم راهق برا بلادي انا ضايع بين مستقبلي وبين ذكريات الماضي على كتر الركض بسرعه نسال خوف خادي
سيري sur la trace des passeurs d'antiquité, un reportage de Noé Pignède et Arthur Saradin avec Alison Vicrobeck à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Souna Altnoder, chef de l'unité Trafic illicite, retour et restitution à l'UNESCO, est l'invité de Grand Reportage. J'aimerais vous faire réagir d'abord aux propos de l'archéologue Vincent Michel. On l'a entendu expliquer tout à l'heure le traumatisme que représente pour lui le pillage d'objets archéologiques, mais ça n'est évidemment pas une perte que pour les archéologues. Est-ce que vous pouvez nous aider à mesurer l'ampleur du préjudice que représente ce trafic ?
Oui, merci beaucoup pour ce reportage poignant et très riche qui nous a montré à quel point le trafic illicite est un phénomène mondial aux conséquences profondes. Chaque objet volé emporte avec lui une part d'histoire, une part de mémoire, d'identité. Quand un objet disparaît, c'est un lien qui se brise. Et donc, c'est une atteinte à l'identité culturelle, c'est une atteinte aux droits culturels des communautés, au savoir-faire des communautés, et donc qui augmente aussi, on l'a vu, les menaces pour la sécurité et qui entrave le redressement à long terme. Donc, nous parlons bien d'un crime qui alimente le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et parfois même le financement du terrorisme.
Oui, on entendait parler d'islam radical, on sait que Daesh s'est notamment financé par ce biais.
Absolument. Et la décision de la Cour pénale internationale en 2016, dans le cas d'Al-Mahdi, a été une étape très importante pour très montrer à quel point le patrimoine est important pour les communautés qui l'ont préservé durant des siècles pour l'humanité tout entière. Et ça n'a fait que renforcer la conviction de l'UNESCO pour le rôle du majeur du patrimoine comme moteur de la reconstruction et de la réconciliation aussi dans la paix.
Alors, vous dites que c'est très important pour les communautés, mais je repense à l'archéologue à Apamé, je crois, qu'ont rencontré Arthur et Noé. Et quand il interpelle les jeunes qui font des fouilles clandestines, eux lui rétorquent « mais c'est juste des pierres ». Donc, manifestement, ils n'ont pas cette conscience-là.
Le trafic illicite, eh bien, nous travaillons d'une manière multidimensionnelle et il faut bien voir que il faut faire aussi un travail sur la résilience des communautés et renforcer cette résilience et leur donner des perspectives d'avenir. Le trafic illicite a des conséquences néfastes dans les conflits, mais il a également, donc dans la lutte contre le trafic illicite, il y a le pouvoir de favoriser la cohésion sociale et de travailler sur les perspectives d'avenir, la résilience des communautés. Je souhaite vous donner un exemple. À Mossoul, en Irak, nous avons achevé le plus grand chantier de reconstruction de l'histoire de notre organisation. Et ensemble, grâce à la confiance de l'Irak, nous avons forgé une méthode sur les besoins, centrée sur les besoins et sur les aspirations profondes des communautés pour réhabiliter le centre urbain avec les communautés, pour reconstruire des sites avec et par les communautés, pour donner aussi pour créer des revenus pour des milliers de jeunes et aussi les former dans les métiers du patrimoine et dans la restauration du patrimoine. Donc
là, l'effet, il est double en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, bon, c'est peut-être pas la peine que j'aille me livrer à des choses illégales. Et en même temps, ça renoue le lien entre les habitants et leur patrimoine culturel.
Absolument. Et je dirais que cette méthode déployée en Irak, c'est peut être tout à fait une matrice modèle pour d'autres lieux, pour d'autres sociétés. Dans ce contexte, quand vous parlez justement reconnecter le patrimoine perdu avec les communautés, restaurer ce lien, je voudrais citer aussi une initiative que nous avons lancée en septembre dernier, qui est le musée virtuel de l'UNESCO sur les biens culturels volés.
Donc c'est un site internet, une plateforme évolutive d'ailleurs, sur laquelle on peut voir ces œuvres qui ont disparu.
Absolument, c'est le premier site au niveau mondial qui met les projecteurs sur les objets culturels volés qui ont été soumis par les États membres. Pas uniquement pour les montrer, pour les faire voir, pour donner aussi accès à ces œuvres qui aujourd'hui malheureusement sont, ne sont pas visibles, mais également pour les mettre dans leur contexte. Vincent Michel parlait bien de cette privation du contexte, de ne plus pouvoir comprendre leur histoire, et aussi pour les reconnecter avec les communautés. Donc, dans ce musée virtuel, nous donnons aussi à voir et à entendre les témoignages des communautés qui nous disent pourquoi ces objets culturels sont si importants, quelle est leur signification. Et nous avons aujourd'hui, dans le musée virtuel, 5 objets de la Syrie, donc, qui sont... Absolument, représentatif du patrimoine national très riche de la Syrie. Les bijoux qui sont extrêmement rares de l'ancienne Palmyre et qui font que ce sont des objets très importants pour l'histoire culturelle et artistique de la Syrie.
Donc ça, effectivement, c'est un site que tout le monde peut consulter. Mais pour sensibiliser le grand public, il faut sans doute faire autre chose.
Absolument. Nous... recherchons en permanence des moyens innovants pour justement lutter contre ce crime au niveau mondial à l'aide de cet instrument de référence qui est la Convention de 1970 et pour mobiliser l'ensemble des acteurs avec lesquels nous travaillons, nos partenaires, que ce soit Interpol, que ce soit l'ICOM, évidemment aux côtés de nos États membres, nous formons les professionnels, les policiers, les douanes, les acteurs judiciaires, le marché de l'art et évidemment toutes sortes de professionnels. Donc nous formons, nous renforçons les cadres juridiques, donc renforcer les législations est capital, et nous sensibilisons le grand public, y compris les jeunes. Nous agissons sur tous les périmètres, et nous pensons aujourd'hui que autant les technologies innovantes et donc sont une opportunité pour renforcer cette lutte. Donc nous avons également des réflexions avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, par exemple.
Alors, à quoi ça sert de travailler avec l'IEEA, par exemple?
Nous avons une coopération intéressante justement pour réfléchir comment les techniques d'analyse nucléaire pour l'authentification des objets peuvent nous aider à renforcer la lutte contre le trafic illicite. Trouver des moyens innovants pour renforcer la lutte contre le trafic illicite est très important parce qu'il faut tout un réseau coordonné et fort pour lutter contre le réseau des criminels qui ne cessent de trouver, comme le disait Vincent Michel, à trouver des nouvelles façons de renforcer justement les activités criminelles.
Oui, ils innovent aussi en permanence. On peut toujours être en retard d'une lutte. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses, notamment en termes de coopération internationale, parce qu'effectivement, c'est à la fois travailler sur la prévention, sur l'enquête. Alors, en France, on a vu qu'il y a une police spécialisée dans la lutte contre le trafic de biens culturels, mais ça n'est pas le cas de tous les pays.
Non, et c'est vrai que les officiers de l'OCPC se sont saisis seulement 5 ans après la naissance justement de la Convention de 1970 de cet enjeu. Ils jouent un rôle éminent aujourd'hui sur le plan national et international dans la lutte contre le trafic illicite. Et c'est vrai que le travail d'investigation, souvent en coopération avec d'autres services de police à l'étranger, est un exemple qui inspire de nombreux pays. Et nous faisons la Convention de 1970 encourage la création justement de ces polices spécialisées.
Noé Pignède.
Oui, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de l'espace européen, avec la Suisse également. En pointe, il y a l'OCBC française, les carabinieri italiens, mais il y a aussi des reculs. Par exemple, la Belgique a démantelé son office spécialisé qui s'occupait de la lutte contre le trafic des biens culturels, donc c'est jamais vraiment gagné. La Suisse a beaucoup progressé par exemple, mais on parlait de la convention UNESCO de 70, la Suisse elle l'a ratifiée en 2005, donc il y a énormément de pays dans le monde qui ne l'ont pas ratifiée, et même quand un pays fait des progrès, la Suisse était une plaque tournante avec des ports francs, donc des endroits secrets où étaient stockées les pièces. Quand on renforce la législation sur les ports francs de Genève, bah, les ports francs de Singapour prennent leur relais, et les ports francs de Dubaï prennent leur relais. Donc aujourd'hui, le Golfe et aussi l'Asie sont des nouvelles plaques tournantes. Donc la lutte, elle n'est jamais vraiment gagnée, en fait. Elle se déplace.
Et même quand il s'agit de sensibiliser les professionnels, on entendait cette responsable des antiquités de la maison Arcurial qui émet par exemple un regret au sujet des objets orphelins. Elle dit là, quand même, on pourrait faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. On sent parfois que, voilà, il y a une difficulté à comprendre le sens réel de toutes ces mesures de vigilance.
Vous dites un mot très important, vigilance. Qui dit objet orphelin dit devoir de vigilance. C'est ce que dit l'UNESCO. Pour nous, l'importance justement des négociants, l'importance du marché de l'art, le rôle est essentiel. Leur rôle est essentiel pour promouvoir justement la convention de 70, en faisant pression pour des meilleures politiques d'acquisition et aussi en insistant sur des règles éthiques strictes et des règles aussi de vigilance par rapport aux objets orphelins, aussi par rapport à la consultation des bases de données qui existent pour vérifier les objets volés.
Et sur la question de la restitution, quelles sont à vos yeux les conditions qui doivent être réunies pour qu'une restitution soit possible, puisqu'on entend qu'il y a parfois débat sur ce sujet?
La retour et la restitution, Vincent Michel disait que la restitution, c'est la finalité. Et j'ajouterais même que la restitution, ce n'est que le début d'une coopération renforcée entre deux États. Il s'agit des processus bilatéraux entre deux pays qui décident. Les conditions réunies, je peux citer un exemple, qui est celui, en fait, une restitution entre les États-Unis et le Yémen. Dans ce cas-là, il s'agissait, en fait, d'une décision commune de sursoir au rapatriement de 79 objets culturels yéménites qui ont été restitués par les États-Unis au Yémen et qui ont été confiés provisoirement à un musée de la Smithsonian Institution. Donc, on voit bien qu'il y a des nouvelles formes de coopération et d'accords qui peuvent être trouvés en matière de retour et de restitution. Quand il y a une volonté d'avancer, il y a un chemin.
Et l'UNESCO n'était pas en Syrie pendant le conflit, mais aujourd'hui, vous êtes en dialogue avec les autorités?
Oui, absolument. Les développements politiques en Syrie, effectivement, ont créé de nouvelles opportunités d'engagement. Et l'UNESCO a été absente du terrain pendant le conflit. Depuis février 2025, nous avons justement repris un engagement opérationnel progressif à travers des missions en Syrie, à travers aussi des projets pilotes qui ont été lancés dans le secteur culturel à impact rapide. Je peux citer un exemple qui concerne le Musée national de Damas, un projet d'inventorisation financé par le Fonds d'urgence de l'UNESCO pour le patrimoine, qui montre à quel point c'est en même temps une mesure de prévention de lutte contre le trafic illicite en sécurisant les collections, en inventoriant et en formant justement le professionnel du patrimoine.
Merci Suna Altnoder. Noé Pignède et Arthur Saradin signent le grand reportage de cette semaine, Syrie sur la trace des passeurs d'antiquité. Réalisation Alison Vicrobeck, Jean-Guilain Meige était à la technique, documentation Patricia Miura et Véronique Le Faller. Vous retrouverez cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.